Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit l'analyste Martine Biron de Radio-Canada pour discuter de l'intéressante thèse de maîtrise qu'elle vient de déposer sur l'effet des élections à date fixe au Québec. On l'oublie parfois, mais 2018 fut la première vraie expérience d'élection à date fixe au Québec. Quel effet cette prévisibilité, pour employer un mot à la mode, a-t-elle eu sur les stratégies des partis politiques et quelles questions pour le scrutin qui vient le 3 octobre? Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec le bureau parlementaire.
Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important, choisissez les mois.
Bonjour Patrick Bellerose.
Bonjour Antoine.
On va d'abord écouter un son, Patrick, dont le gouvernement Legault veut se débarrasser dans le système de santé. Oui, c'est le doux chant du fax qu'on entend encore dans le système de santé, Patrick. Et là, tu as appris qu'on va finalement tester le dossier santé numérique. Ça, c'est promis depuis des années.
Écoute, Antoine, j'écoutais le son puis je me disais que sûrement les jeunes auditeurs ne savent même pas c'est quoi un fax qui n'aurait pas reconnu ce son-là.
Oui.
Moi-même, je t'avoue que je m'en suis jamais servi et je ne sais pas comment ça fonctionne.
Ah ouais?
C'est une façon d'envoyer un document dans le passé parce que c'est tellement daté pour moi comme outil numérique. Donc Québec qui veut passer au dossier santé numérique, qui est dans le fond une façon de centraliser dans le web, dans les fonds numériques, toutes les données médicales d'un usager, de la naissance à son décès. On veut pouvoir partager avec l'ensemble des professionnels de santé toutes les données de santé d'un usager. On veut aussi donner aux patients accès à ces informations-là. Et ça doit aussi servir à créer des indicateurs de gestion, de qualité, de performance, en plus d'alimenter des registres, par exemple, comme sur le cancer ou sur la situation des urgences. Donc, vraiment un virage très important qu'on nous promet depuis des années et des années. Là,
ben oui.
On parle d'une vingtaine d'années, si on veut, sous différentes formes. Le DSN en soi, le dossier santé numérique en soi, c'est quelques années, mais si on remonte, écoute, moi, je me souviens, j'étais aux études, et déjà on parlait de l'info-route de la santé, du virage numérique de la santé. On l'a vu sous différentes formes.
Oui.
Je voulais te poser une question, Antoine.
Oui.
Parce que c'est l'exemple que j'utilise tout le temps. Est-ce que tu as accès à ton compte bancaire en ligne, toi?
Ben oui, même quand je suis à l'étranger.
T'imagines? C'est facile.
C'est dingue. Hein?
Ton empreinte digitale, avec le bout du pouce, tu peux avoir accès à ton compte bancaire, tu peux faire des transactions gratuitement avec d'autres personnes via Internet.
C'est des données éminemment personnelles, là,
personnelles,
celles qui sont dans le compte bancaire.
Exact. On s'entend qu'il faut les protéger de façon beaucoup plus importante que les données de santé, même s'il y a un aspect de sécurité important. Mais je pense que si on réussit à protéger nos informations bancaires, si on réussit à éviter de se faire voler en ligne grâce à ça, on devrait, d'après moi, réussir à faire quelque chose avec le réseau de la santé, mais chaque fois qu'on veut s'y atteler, on dirait que c'est une tâche colossale.
Oui.
Donc là, cette fois-ci...
Explique-moi, là, parce que j'ai déjà eu accès, moi, au dossier Santé Québec. C'était pour des résultats, si je ne m'abuse, mon résultat de COVID, mon premier, là.
Oui, exactement. Donc, ça fait partie, quand je disais que ça fait des années qu'on nous promet de numériser la santé. Le dossier Santé Québec fait partie de ça. C'est un des éléments, si on veut, qui mène au dossier santé numérique. Ça, c'est une forme une forme primaire, si on veut, du DSM. Ça, c'était quand même assez limité. On permettait d'avoir accès aux résultats sanguins, aux tests d'imagerie, par exemple. Donc, c'était assez limité. Là, ce qu'on veut faire maintenant, c'est, à terme, de tout envoyer en ligne, mettre fin à la paperasse, mettre fin au fax, comme tu disais, et surtout d'éviter que toi et moi, quand on veut consulter un médecin ou quand on va dans un hôpital, qu'on ait besoin d'aller voir l'ancien hôpital où on a déjà été, l'ancien médecin, aller chercher le document, aller chercher le papier qui dit « OK, voici, tu as passé un test sanguin, voici les résultats, voici ton test COVID dont tu parlais tantôt. » Moi, juste pour prendre un exemple, j'étais à l'hôpital récemment, pas de problème, mais le médecin me posait des questions et je me disais « C'est incroyable que vous n'ayez pas ces données-là. J'ai passé des tests il y a quelques années, vous devriez le savoir. » Un médecin peut avoir une compréhension différente de la mienne quand tu vois que tel événement.
C'est fondamental, cela.
Ben, ça me semble être la base.
Puis ça nous évite de répéter bien des histoires. Ben, tu sais, quand on rencontre un médecin généraliste, après ça, un médecin spécialiste, tout ça.
Tu as tout à fait raison. Mais regarde, la personne qui était à côté de moi, c'est une personne âgée, qui entendait mal et qui, je sais pas, j'étais des pèlerins de noir un petit peu. C'est sa conjointe qui expliquait au médecin tout ce qu'ils avaient fait récemment comme test et comme démarche médicale. Mais je me disais, si le monsieur, sa conjointe, n'avait pas été avec lui, ben écoute, il y a peut-être des bouts qui auraient été perdus. Là. C'est incroyable que tout ça ne soit pas centralisé, quelque part et accessible facilement.
Moi aussi, ça fait des années que je fais la comparaison avec le compte bancaire. Et on m'a déjà expliqué que si l'espèce de psychose, de peur extrême de vol des données personnelles qui explique une bonne partie des dérapages des tentatives, là, des différentes tentatives d'informatiser la santé. C'est que c'est public, alors que, bon, les banques, c'est privé, c'est nos informations personnelles et tout ça, mais c'est un système privé, puis il y a beaucoup de demandes de la part des utilisateurs. Alors qu'ici, on est dans un système public. Puis là, l'État doit se porter garant de la protection des données personnelles. Puis on est tellement allé loin dans la protection qu'il y a eu bien des bâtons dans les roues de ceux qui voulaient informatiser.
Écoute, c'est possible. Je dirais juste que il y a le ministère des Finances qui a quand même nos données assez importantes et qui gère beaucoup de données comme ça. Donc, j'ai l'impression qu'on peut faire les deux quand même, qu'on est capable, même au public, de protéger les données. Mais donc, juste pour mettre un peu les lecteurs dans le bain, ce qui a été annoncé aujourd'hui, ce qu'on a appris en primeur ce matin, c'est dans le fond que Québec va injecter 951 millions sur 3 ans pour moderniser le réseau de la santé. Ça comprend plusieurs volets, dont le volet dont on parle ce matin, du dossier santé numérique. Et il y a 2 projets pilotes qui vont être lancés d'ici la fin de l'année au CIUS du nord de l'île de Montréal et au CIUS de la Mauricie, centre du Québec, pour justement tester ce dossier santé numérique-là. Et ce qu'on nous dit, c'est que justement, pour éviter les dérapages qu'on a connus, les grands échecs des réseaux informatiques qu'on a connus au public, on va faire ça de façon graduelle avec 2 projets pilotes qui vont durer 2 ans. Et après, on veut déployer ça graduellement à la grandeur du Québec, si tout va bien.
Deuxième sujet et dernier, la loi 101 au Cégep, le Parti québécois lance une publicité.
Ben oui, écoute, comme tu sais, il y a un vote très important qui s'en vient sur la réforme de la loi 101 au Québec. Donc, le gouvernement Legault qui, depuis des mois, travaille sur le projet de loi 96, les études ici à Québec. Et là, le projet de loi, dans son dernier droit, c'est drôle parce que jusqu'ici, il y avait quand même un certain consensus. Mais dans le dernier droit, il y a des gens, autant du côté des anglophones que chez les nationalistes les plus fervents qui s'y opposent. Et parmi ceux-ci, il y a le Parti québécois qui considère que le projet de loi ne va pas assez loin. Le PQ propose d'appliquer carrément la loi 101 au Cégep. Et pour faire la promotion de cette idée-là, ils ont acheté 134 espaces d'affichage sur les abribus de la région de Montréal donc principalement à Montréal, mais un petit peu à Longueuil et Laval aussi, pour réclamer l'imposition de la loi 101 au cégep. On dit agissons avant qu'il soit too late. Mm-hmm. Le too late, c'est comme rajouter un petit peu en graffiti là, par-dessus les mots trop tard. J'ai parlé avec le chef du Parti québécois, Paul Saint-Honoré-Rondon, qui explique que ben, ils veulent faire connaître leur alternative. Eux considèrent que les propositions, ou en fait les mesures proposées par Simon Jolin Barrette, ministre de la langue française, ce sont des demi-mesures cosmétiques. Mmh. Ils disent en fait c'est pas suffisant pour renverser le déclin du français. Ce qu'il faut faire, c'est carrément aller de l'avant avec l'imposition de la loi 101 au cégep. Cette idée-là a été débattue au sein du caucus CAQIS. On avait écrit là-dessus beaucoup durant
ben oui.
la dernière année. Écoute, monsieur.
Il y avait plusieurs ministres qui étaient favorables. Là. Je pense à André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, ministre aussi de la Famille, Mathieu Lacombe. Et je pense que le ministre Simon-Jolin Barrette lui-même était d'accord, mais.
Oui. Comme M. Jolin Barrette,
ils l'ont jamais dit en public, remarque.
Ils l'ont jamais dit publiquement, mais on s'en doute qu'il y a peut-être aussi Jean-François Roberge qu'on pense qu'il y aurait peut-être un parti favorable à cette idée. Mais donc, ça a été refusé, ça a été rejeté. Ce que M. Legault dit, c'est ben, écoutez, on veut laisser l'opportunité, le choix aux parents francophones d'envoyer leurs jeunes au cégep en anglais quand s'ils veulent apprendre l'anglais parce que bon, ils ont fait toute leur primaire, leur secondaire en français, sont francophones. Peut-être qu'on va aller chercher une deuxième langue pour réussir dans le monde du travail, réussir à l'étranger ou réussir carrément à parler de parfois au Canada anglais ou aux États-Unis. Donc, c'était rejeté par M. Legault. Et là, ce qui est intéressant, justement, comme je disais, c'est que le projet 96 déplaît autant chez les anglophones que chez les nationalistes plus fervents. On a vu, en fait, semaine qu'il y avait une manifestation quoi d'un millier d'anglophones ou de gens qui l'appuyaient, dont faisait partie le Parti libéral, Mme Anglade,
oui.
en participé.
Habillé en rouge.
Tout habillé en rouge, exactement. Un cortège libéral habillé en rouge.
Les gardes rouges, hein? Comme en Chine communiste.
Et là, le Parti libéral a déjà annoncé qu'ils vont voter contre, notamment à cause du plafonnement qu'on va imposer au cégep anglophone. Québec solidaire, de son côté, dit « Écoutez, nous, on va voter pour le projet de loi. Par contre, ils demandent que les communautés autochtones soit exempté, parce qu'on se dit ben, ça vient rajouter un poids. Il y a certaines communautés qui parlent évidemment leur langue autochtone, qui parlent l'anglais comme deuxième langue, et là, on craint de devoir suivre trois cours en français ou deux français supplémentaires au cégep. Mm. Donc, Québec solidaire demande qu'on exempte les communautés autochtones. Et le Parti québécois, lui, fait durer le suspense. Écoute, c'est un suspense qui est un peu particulier parce que depuis des mois et des mois, ils manifestent leur déception, ils disent qu'on va pas assez loin. Mais encore hier, le chef du PQ nous disait on va faire connaître notre position bientôt sur le vote. J'ai l'impression qu'ils n'auront pas le choix de voter contre, mais pour l'instant, c'est toujours pas confirmé.
Ils vont peut-être s'abstenir, comme ils sont abstenus lors de la présentation des amendements, des tout derniers amendements là, au Salon Bleu la semaine passée.
C'est possible aussi.
Merci infiniment, Patrick Bellerose. On se laisse sur quelques notes de Def Leppard, Too Late for Love, en clin d'œil à la publicité du Parti québécois, mais aussi à Rémi Nadeau, qui aime beaucoup le hard rock et qui sera bientôt de retour avec nous, pauvre Rémi qui est encore malade. Merci encore, Patrick.